mercredi, salut.
Le micro est réparé. OK, parfait. Pendant deux secondes, j'ai peur qu'on n'entende pas comme hier. Hey, bienvenue, bienvenue dans leur CV. Mon nom est Pascal et je vous accompagne pendant la prochaine heure. On a beaucoup de choses à jaser, vous et moi, puis très heureuse de vous dire qu'on va accueillir Valérie Beaudoin dans les prochaines minutes, analyste de la politique américaine. C'est aussi une amie personnelle et on a plusieurs sujets à aborder, oui, parce que Donald Trump fait bien réagir. J'ai l'impression que les États-Unis sont devenus Donald Trump, vraiment définis par le président américain qui a été choisi. Et on a du sujet pas à peu près. Premièrement, je veux dire, il va falloir jaser de ce que pense Trump des Américains, comme quoi il a abordé le fait qu'il aimerait avoir des dictateurs, là, les Américains, comme président. Donald Trump aussi veut ramener la peine de mort à Washington pour les meurtres. Il menace de poursuivre en justice un milliardaire qui s'appelle George Soros et son fils. Il parle aussi d'une polémique, celle des fonctionnaires américains qui ont été suspendus après une lettre critiquant sa politique, donc la politique de Trump. Et aussi Crackle Barrel, la chaîne de restaurants qui est très, très appréciée souvent par nos Québécois qui s'en vont de l'autre côté chez les cousins américains. On parle de logo. Ça a rapport avec Donald Trump. On va éclaircir tout ça avec Valérie Beaudoin qui recommence sa session américaine, sa session de commentaires depuis quelques jours maintenant. C'est sûr qu'on va aller jaser de la commission Galant. J'ai l'impression que, autant qu'Éric Kerr n'était pas prévu au départ comme témoin qui allait aller se faire interroger, depuis quelques heures, là, depuis son témoignage qui a débuté hier, le député de la Pelletrie de 2007 à aujourd'hui, Éric Kerr, a tous les projecteurs tournés sur lui. Il y a des couvertures en direct de tout ce qu'il dit. Le fiasco SAQ Click, depuis quelques semaines déjà, fait témoigner en commission Galant plusieurs pions de ce chaos, cette catastrophe-là. Et je pense que Ricard, c'est celui qu'on court le plus, malgré Mme Guilbeault, malgré M. Bonnardel, M. Lessard. C'est vraiment Ricard parce que longtemps, on a cloué au mur ce député-là, ancien ministre délégué à la transformation numérique de 2018 à 2022. C'est un homme, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait demandé un ministère de la cybersécurité et du numérique quand il n'était même pas auprès de la CAQ, qui n'était même pas député élu. C'était quelqu'un qui luttait pour. On n'a pas compris pourquoi est-ce que ça a été aussi mal géré. On n'a pas compris aussi l'apparition, ce qui nous donne l'impression d'avoir eu énormément d'incompétences au sein de ce ministère-là, si on le réclamait autant. Puis en passant, on aurait dû avoir ça il y a 10 ans. On aurait dû embarquer dans le train il y a plusieurs années, même à l'aube des chemins de fer, même quand ça n'existait pas, tout le web et le tralala. Mais bon, on reprend le témoignage de M. Kerr aujourd'hui à la commission Galant. C'est très suivi, hein, celui de l'ex-ministre de la cybersécurité et du numérique. On en reparle un peu plus tard à l'émission. Tout de suite, on s'en va en musique. Pourquoi? Parce que Val Beaudoin nous a fait de la place dans son horaire, puis on ne veut pas la manquer. On revient dans un instant après les colocs. Passe-moi la POC à leur CV.
C'est cerveau, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet à leur CV. Ouais, à l'extérieur, bon, il fait quand même 14 degrés et ça pourrait monter aujourd'hui jusqu'à 20. Mais c'est un peu une journée d'automne, hein, avec les nuages, le gris, la température un peu plus fraîche. On met une veste. Chose dite, le sujet, ce sont les États-Unis. En fait, c'est sûr que Donald Trump, il faut en parler. On extensionne cette entrevue-là depuis quelques jours parce qu'elle a la broue dans le toupette et pas à peu près. On en parle au personnel et les moi de ce qui se passe du côté des États-Unis puis à l'international. Mais là, aujourd'hui, on va le faire avec vous. Puis en plus, ben, dans les dernières heures, il y a de la nouvelle qui s'est ajoutée. On accueille en studio, ben, par téléphone, Valérie Beaudoin, analyste de la politique américaine. Salut Valérie!
Salut!
Contente de te recevoir dans leur CV. On finit cette semaine-là de l'été avec toi, bien sûr.
Oui.
Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Donald Trump te fait vraiment travailler. Et il y a des choses que j'aurais jamais cru lire par rapport aux États-Unis qui arrivent à côté du nom Donald Trump dans l'actualité. Certains pensent que c'est vraiment un acharnement médiatique de titrer les choses ainsi. On va faire le tour avec toi parce qu'il faut comprendre la situation. Je commence, Valérie, avec cet article-là. Donald Trump veut ramener la peine de mort à Washington pour les meurtres. T'en dis
oui.
Quoi?
Ben, est-ce que, en fait, c'est que Donald Trump, sa cible préférée en ce moment, c'est les villes démocrates. Hein? Il y a Washington D.C. où on sait qu'il a envoyé la garde nationale. Il y a Chicago où il veut envoyer aussi la garde nationale, même si la mairie là-bas et le gouverneur veulent absolument rien savoir. Dit un peu la même chose à Baltimore, qui est juste à côté de Washington D.C., qui est dans l'État du Maryland. Donc, on a comme des cibles. Et à Washington D.C., là, le portrait qu'on en fait, c'est comme si c'était une ville, là, l'image qu'on avait que à feu et à sang, qu'il y avait des meurtres à chaque coin de rue et tout ça, et que là, c'est nécessaire d'avoir donc cette garde nationale et autres. Il peut le faire. Je fais juste une mini-parenthèse, si tu me permets,
oui,
Pascal,
oui,
parce que Washington, D.C., c'est très particulier, puis on le sait, hein, le système américain est très complexe. Washington, D.C., c'est comme si Ottawa était un district et qui n'était pas au sein d'une province, alors qui n'était pas au sein d'un État. C'est la même chose. Alors, Washington, il n'y a pas de gouverneur. Hein, c'est vraiment juste une ville qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui est même pas au sein d'un État, qui a vraiment un statut particulier. Alors oui, le président a le droit de poser plus de gestes qu'ailleurs aux États-Unis. Alors là, il veut revenir avec la peine de mort pour décourager justement les meurtres. C'est un peu ce qu'il aimerait faire à l'échelle, je te dirais, des États.
Mais ça a été aboli dans la capitale américaine depuis 1981.
C'est ça. Et ailleurs aussi, il y a de plus en plus d'États qui vont l'abolir. Là, on a vu dans les dernières années, là, quand on regarde dans le temps, combien il y a eu peut-être de cas où c'est une erreur sur la personne. Il y a eu des problèmes avec même les médicaments, là, l'espèce de drogue pour l'action carrément de tuer la personne, enlever la vie à la personne dans le couloir de la mort. Il y avait en tout cas toutes sortes d'histoires assez horribles. Mais là, de ramener ça, écoute, quand c'est une ville très démocrate, qui est assurément contre la peine de mort, et lui pense que c'est ça qui va faire que c'est dissuasif, c'est qu'automatiquement t'as une peine de mort s'il y a un meurtre. Bien, c'est pas comme ça normalement que ça fonctionne, on s'entend là. Il y a des circonstances, même dans des États où il y a de la peine de mort, c'est pas tout le monde qui est dans le couloir de la mort juste après. Alors Donald Trump qui va aller encore plus loin dans son espèce d'emprise sur la ville de Washington pour décourager, mais juste pour parler un peu de statistiques. En 2023, il y a eu une hausse au niveau de la violence, pas comme on avait vu nécessairement dans les années 90 où à Washington D.C. ça allait pas très très bien, mais il y a eu une baisse dans les deux dernières années. Alors on n'est pas dans une situation hors de contrôle, là, même si peut-être par certaines déclarations on a l'impression que oui.
Puis c'est assez drastique en fait comme prise de parole. Ça ramène des gros débats qui ont eu lieu dans le passé. Entre autres, il y a plusieurs statistiques qui ont été faites, des analyses en fait scientifiques sur le fait que la peine de mort a jamais eu réellement d'effet non plus sur le crime, beaucoup d'erreurs sur la personne aussi qui se sont passées. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir énormément et pas juste prendre la parole comme ça quand on est un président, en fait, même si on est président américain, puis lancer ça dans le peuple, en fait, là, je vais le dire comme ça, ça a vraiment été plutôt une annonce versus une nouvelle façon de faire, mais ça fait énormément réagir. Même chose qu'une autre prise de parole, Trump qui pense que beaucoup d'Américains aimeraient avoir un dictateur. Ça, après tout ce qu'on voit qui est implanté sous Donald Trump, ça peut faire un peu frémir. Puis là, je le dis comme ça parce que je veux que tu m'éclaires. Est-ce qu'on reste un peu sur nos gardes ou on frémit à ça pour de mauvaises raisons? Est-ce qu'on devrait laisser aller des propos comme tels?
Premièrement, je serais intéressée de voir ce que beaucoup de gens veulent un dictateur, ça représente, parce que je serais extrêmement surprise pour dire même que je vois que c'est impossible qu'il y ait une majorité de gens ou une grande partie de la population américaine qui souhaite avoir un dictateur. Déjà là, c'est beaucoup, est-ce que c'est 10 personnes? c'est ça aussi l'exagération.
C'est un dictateur, c'est puissant, c'est ce qu'on voit à l'international avec la Corée, la Chine, la Russie, vraiment?
Ben oui, puisqu'on a vu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu en Europe avec plein de, tu sais, le premier exemple qui nous vient en tête, bien sûr, ça va être Hitler, ça va être Mussolini, tu sais, je veux dire, on en a des exemples. Malheureusement, l'histoire nous a pas appris grand-chose. Il y en a encore, comme tu viens d'en nommer, comme le Corée du Nord, je pense que c'est un très, très bon exemple où on contrôle tout. Puis je pense aussi que j'ai déjà vu, là, pour la petite histoire des vox pop, là, tu sais, qu'on fait dans la rue, puis il y a des gens qui disent, mais là, vous trouvez pas que Trump, c'est ce qu'il fait, c'est un dictateur, nanana, puis ils disent ben, peut-être qu'on a besoin de ça, un dictateur. Alors oui, j'ai déjà entendu ça, mais je pense que les gens ne saisissent pas exactement ce que ça veut dire dans ce contexte-là. Et ça, c'est vraiment des gens qui sont fiers de la base MAGA et qui disent ben, que nous, peu importe ce que Trump va faire, c'est correct. Je pense que les républicains qui votent pour Trump veulent pas non plus d'un dictateur. Alors c'est pas comme quelque chose de tout le monde qui vote pour Trump veut qu'il soit un dictateur, peu importe. Les républicains, il faut faire attention, tu sais, je vais être très, très claire là-dedans, ne voudront pas de Trump un dictateur. Est-ce que Trump est un dictateur en ce moment? La réponse est aussi non. On est dans une démocratie aux États-Unis. Exact. Est-ce qu'il prend des décisions qui peuvent faire écho à certaines politiques, je vais dire totalitaires? La réponse est oui. De vouloir toujours menacer d'utiliser l'armée, de vouloir enlever des fonds, de vouloir contrôler, de toujours ramener le pouvoir au président des États-Unis, quand c'est très décentralisé, au contraire.
D'avoir la garde nationale à Washington, de parler de la peine de mort, par exemple, de l'armée aussi, de cette garde nationale-là. Puis faisons la parenthèse, Valérie, ensemble, il a dit dans son discours, en fait, c'était comme un point de presse improvisé du côté de la Maison-Blanche dans les dernières heures, là, puis il s'est mis à dire plein de choses sur la sécurité, entre autres, puis il disait... beaucoup de gens disent peut-être que nous aimerions avoir un dictateur. Lui, il a dit « Je n'aime pas les dictateurs, je ne suis pas un dictateur, mais je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et d'intelligence.
Mm-hmm. » Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il peut trouver des solutions à tous les problèmes aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est juste que la ligne, elle est où, tu sais, jusqu'à un certain point, il y a quand même... C'est pour ça que je veux quand même rassurer les gens. Là, on n'est pas dans une situation où les institutions américaines, la démocratie est en train de s'écrouler. Est-ce qu'on est en train de l'effriter, là, un petit peu par petit peu? La réponse est oui. Mais on n'est vraiment pas dans une situation, c'est certain, on n'est pas en Corée du Nord, mais si on s'en va aussi loin que de vouloir contrôler ce qui se passe dans les médias, de vouloir faire des poursuites quand on n'est pas content de ce qu'on dit sur nous, de contrôler l'information, de mettre à la porte, et ça, je pense, c'est un sujet qu'on voulait aborder ensemble, mais de mettre à la porte des fonctionnaires qui parlent contre l'administration ou qui font des critiques, ça commence à être des trucs qui, pour moi, s'additionnent. Ils sont très néfastes pour une société comme celle des États-Unis.
Mais parlons-en, parce que tout est interrelié dans nos sujets aujourd'hui. Mais oui, effectivement, certains fonctionnaires ne sont pas d'accord avec la politique de Trump, n'aiment pas cette politique-là, ou du moins avaient des critiques à apporter. Ils ont décidé de le faire avec une lettre. Ils se sont dit, nous, on n'a pas beaucoup d'écho, on n'a pas beaucoup de force, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on est fonctionnaires, on voit ce qui se passe en ce moment, ça nous inquiète, et on va écrire. Somme toute, ça n'a pas fait l'affaire de Donald Trump et il a décidé d'y aller effectivement avec un comportement qu'on voit très peu en démocratie. Vous êtes suspendu. Out. Il n'y avait pas de devoir de discrétion qui était évoqué dans cette affaire-là. On parle plus d'une lettre ouverte qui a été envoyée au Congrès lundi, 20 ans après le passage dévastateur de l'ouragan Katrina. Il y a près de 200 employés actuels et anciens qui ont dénoncé la réduction des capacités, entre autres de la FEMA, à effectuer des missions. Alors, c'est une critique comme telle sur quelque chose qui est la FEMA, en passant, c'est l'Agence de réponse aux catastrophes naturelles, là. Oui. Et c'est ce qu'on a critiqué. Ça n'a pas fait l'affaire de Trump, entre autres.
Bien, c'est ça. Ça n'a pas fait l'affaire de son administration. Parce que là, qu'est-ce qu'on dit après ça, les porte-paroles de l'agence, parce qu'on a vraiment tout changé le leadership. C'est ça que les gens critiquaient en disant que là, on est tellement désorganisé, puis que c'est des gens qui manquent d'expérience, qui ont été mis à la tête de cette agence-là, qui est très, très, très importante, qui répond quand il y a des feux de forêt, quand il y a des ouragans, quand il y a toutes les catastrophes naturelles. Puis oui, Katrina, c'est l'exemple qu'on a aux États-Unis d'une des plus grandes tragédies qu'ils ont eues. Et là, de dire, ben écoutez, on est inquiet qu'on ait une tragédie encore plus grande que Katrina. Et leur réaction est de dire pas bon, OK, on va écouter ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est de dire, ben, vous allez avec solde, aller à la maison pendant que finalement on enquête, parce que vous êtes justement faites partie du problème. Vous faites partie des gens qui voient l'agence comme elle était auparavant. Donc, il n'y a aucune écoute par rapport à ça. Et on le fait, ça a passé un peu. Je vais dire l'expression, ça a passé un peu dans le beurre cet été, là, mais il y a l'Agence de protection de l'environnement aussi qui fait énormément de coupes, qui n'a plus du tout un leadership axé sur la protection de l'environnement en tant que tel. Il y a eu la même chose, des lettres ouvertes, des dénonciations. Puis qu'est-ce qu'on a fait, Pascal? Mais bien, on a mis aussi ces gens-là en congé avec ça. Alors, on les a suspendus aussi. Donc, c'est une pratique qu'on fait. Et on a ça à quelques reprises, là.
Puis on s'entend que ce dossier-là, je vais essayer de l'exprimer de la bonne manière, là, je ne veux pas froisser personne, il est extrêmement important, mais ce n'est pas un dossier qui est polarisant. On parle de prendre soin de tout ce qui arrive après, par exemple, là, un ouragan, une catastrophe naturelle. On parle de cette gestion-là. Mm-hmm. Pour avoir voyagé en Nouvelle-Orléans des années après l'ouragan et tout ça, j'ai vu encore des villages condamnés, là, des X sur sur les portes, il n'y a rien qui a été fait. Puis là, on parle de plusieurs années après. Donc, il y a quand même quelque chose qui est déploré, qui est agréable à savoir, mais ce n'est pas une histoire de des gens qui sont sortis dans la rue, des fonctionnaires, pour décrier, mettons, les points chauds actuels comme la garde nationale dans Washington. Là. On parle de quelque chose qui est pour aider la communauté, pour reconstruire des quartiers. Pour... Et ça ne fait pas l'affaire de Donald Trump. Imaginez sur d'autres points. Moi, ça, je ne comprends pas cette révolte-là de l'administration Trump, entre autres sur un sujet comme celui-là.
Oui, bien, c'est en fait, c'est qu'ils vont dire, bien, parce que l'argent était mal utilisé, l'argent allait plutôt à des États démocrates, tu sais, c'est à travers le temps, c'est les critiques qui ont été là, mais là, dans le cas de Katrina, par exemple, c'est pas dans un État démocrate du tout, mais c'est vraiment de dire que c'était mal géré, qu'on gaspillait de l'argent un peu à l'image de tout ce qu'Elon Musk disait à l'époque. Alors voilà peut-être un peu le fond de l'affaire.
Je vois que le temps avance, tu vas être pressée, Valérie. Peut-être finir juste sur ce point-là. Crackle Barrel, la chaîne de restauration, oui, qui est très aimée, là, entre autres des Québécois quand ils s'en vont aux États-Unis, une chaîne bien connue qui se mêle à son tour dans une polémique avec Donald Trump.
Oui, puis même avec certains démocrates, hein, parce que il y en a qui ont critiqué aussi la chose, c'est qu'on a voulu moderniser l'entreprise. Pour les gens qui connaissent pas ça, Cracker Barrel, là, tu rentres, il y a même une espèce de grosse boutique. Après ça, c'est très country style, ça vient du Tennessee, comment dire, la nourriture, le centre sans complexe.
Un gros déjeuner américain, là. Ça, tu trouves ça chez Cracker Barrel.
Du gravy, ouais. Tous les trucs du sud des États-Unis, de la déco country très western. Et là, on voulait moderniser tout ça, moderniser l'image, puis on a enlevé le logo avec ce qu'on appelle un old-timer, donc une personne un peu plus âgée qui est à côté sur un baril. Et là, on a voulu moderniser ça, puis là, il y a une espèce de crise. On a perdu de l'argent. Et finalement, ben aujourd'hui, on apprend que Cracker Barrel recule et Donald Trump qui est très, très heureux de cette nouvelle-là.
Quand on parle de l'homme d'affaires qui n'est jamais très, très loin, oui, il est là même pour n'importe quel marketing et autres. Hey, merci beaucoup, exact. Valérie Beaudoin.
Merci.
On se reparle.
À bientôt. Bye.
Valérie Beaudoin, analyste politique américaine qui vient souvent faire son tour à Boulevard 102.1. Il y a tellement de dossiers en ce moment. Puis, tu sais, là, on a joué, j'appelle ça, joué à commenter l'actualité. Bon, c'est une experte pour sa part. Nous, on est commentateurs, on est observateurs. Mais ce qui se passe, puis la manière dont on titre certains éléments qui ramènent à la politique de Donald Trump en ce moment et les États-Unis, c'est vraiment particulier. C'est du jamais vu, honnêtement, de ce qu'on connaît de nos cousins américains depuis plusieurs années. Un genre de politique qui est très face à face, qui est très non-indulgent, honnêtement, envers un fonctionnaire, envers façon de voir la protection du pays. Je ne sais pas comment vous positionner là-dedans. Puis je vous pose la question parce que moi, vous le savez, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon genre de leadership. Donald Trump, je le dis en ondes et je suis plus critique, hein, face à lui parce que justement, lire des affaires comme amener dans une conférence de presse totalement spontanée que selon lui, selon ce qu'il entend, certains Américains aimeraient avoir un dictateur, je comprends pas. Lui dit qu'il ne les aime pas, mais qu'il n'est pas un dictateur, mais qu'il est un homme tout de suite collé après, là, doté de beaucoup de sens et d'intelligence. Ça me ramène à des stratégies de communication qui endorment. Puis celle-là, des fois, mérite, mais attire énormément mon attention, puis même me fait réfléchir sur les pans de l'histoire. Puis tu veux jamais tomber là-dedans parce qu'il y a une façon de répliquer à ça qui s'appelle le point de Godwin. Quand tu étudies en communication puis en débat, il y a toujours la loi de Godwin qui va revenir à un moment ou à un autre, puis c'est dénoncer ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est toujours le point Godwin. Et ça, souvent, ça va aller briser le débat, puis tu te dis, bon, ben parfait, vous ramenez à ce qui a marqué et qui a fragilisé, qui a séparé des millions d'habitants, qui a fait en sorte qu'on s'est fait entourlouper par un dictateur qui n'était pas le cerveau de l'affaire en tant que tel. Il y en était un, deux, mais tu avais Joseph Goebbels en arrière et tout ça. Je me dis, Caroline, il y a certaines similitudes parfois sur l'endormissement d'un message communicationnel du côté de Donald Trump, de son équipe, face à des sujets super chauds, comme dire, ben, on aimerait ça peut-être avoir un dictateur aux États-Unis, on veut ramener la peine de mort et tout ça. Je sais que c'est fragile d'aborder les deux choses dans le même témoignage, mais force est d'admettre que c'est l'exemple par excellence de communication qui se sont faits avec le temps, tranquillement, pas vite, et qui ont miné le cerveau de certaines personnes. Il y a encore des gens qui ont été nazis, qui témoignent maintenant, qui sont encore vivants, qui comprennent pas comment ils ont été amenés à porter des gestes de violence comme ceux-là. Et là, je vous jure, je fais une dissociation, je fais extrêmement attention entre ce qu'on a amené en termes de témoignages par rapport aux agissements, à la politique de Donald Trump. Par contre, là où je fais une corrélation, c'est la manière de communiquer du président. La manière d'amener dans l'actualité des sujets extrêmement chauds, d'avoir une possibilité de se faire entendre et qu'il n'y ait pas de critique unanime face à, par exemple, des Américains qui voudraient un dictateur aux États-Unis. C'est fascinant. Ça, je peux faire une corrélation sur la manière de faire de la communication qui endort. Et celle-là, moi, j'en démarre pas. Je trouve ça extrêmement, oui, intéressant à suivre, mais aussi un peu inquiétant sur des points. Puis je pense que si on a tous un rôle à avoir, c'est d'y réfléchir, d'être conscient, et je ramène ça à notre politique ici, de ne pas se faire endormir, c'est extrêmement important. On va toujours être biaisé dans notre façon de voir la politique par rapport à d'où on vient, par rapport à qui on connaît, par rapport à ce qui nous intéresse dans les filets sociaux ou pas, c'est quoi nos intérêts, c'est-tu l'économie ou encore c'est la collectivité en termes de priorité. L'un ne peut aller sans l'autre. Là, on s'entend, pour avoir des filets sociaux, il faut avoir une bonne économie. Pour avoir une bonne économie, il faut des gens qui vivent bien au quotidien, qui construisent la société, qui participent justement à cette économie-là. Et on l'oublie beaucoup trop souvent. C'est pas une histoire de grise, qui n'est pas alléchante, qui ne fait pas un beau borésie quand on en parle en politique. C'est vraiment une question d'équilibre. Il y a des gens qui nous disent, oui, effectivement, il y a des nazis qui étaient du bon monde. Là, on s'entend pas dans leur comportement, pas dans la violence auprès d'un peuple. Moi, ça, je dois vraiment faire attention aux commentaires qui viennent d'entrer. Mais il y a des gens qui ont réussi à se faire endoctriner, à se faire brainwasher, d'embarquer là-dedans. La haine de l'autre peut devenir très, très forte. Puis c'est là où il faut toujours se remettre en question et commencer aussi à poser des questions, à côtoyer l'autre. Hyper sensible, le sujet aussi de la conduite en ce moment au Québec, OK? Vous êtes sur les réseaux routiers, on voit des accidents, on voit des comportements beaucoup plus, disons, lents dans les sorties d'autoroute, dans les entrées d'autoroute, puis il commence à avoir certains commentaires racistes de gens qui ne le sont pas, mais qui ont ces commentaires racistes-là parce que beaucoup d'immigrants ici ont un permis de conduire trop rapidement et arrivent sur nos routes puis ne comprennent pas toujours la signalisation, ça va moins vite dans leur pays et tout ça. Puis ça, c'est sensible, mais il faut l'aborder parce que ça peut devenir un enjeu. Par contre, ce qu'il faut aborder aussi, c'est pas de faire des corrélations racistes envers ces gens-là. Il faut comprendre le pourquoi c'est sur nos routes, mais ça devient entre nos mains aussi de s'assurer que les gens qui vont pouvoir être dans leur voiture soient capables de circuler comme nous circulons avec une compréhension de tous ces règlements autoroutiers-là qu'on a. Puis c'est vraiment important, je pense, de faire toute cette analyse-là psychologique puis intellectuelle en arrière des dossiers, puis pas juste commencer à prôner un clan ou un autre. Mais ça, c'est inquiétant. Puis moi, je vais vous le dire, je trouve ça vraiment particulier, au même titre que le président américain qui a tenté et entendait rebaptiser le département de la Défense pour lui donner le nom de département de la guerre. Quand au départ, il se disait président pacifique, il y a plein de choses là-dedans qu'on va devoir adresser, qu'on va devoir suivre aussi avec une lucidité. Comprendre ce qui est bon, essayer de critiquer ce qu'on trouve moins adapté, moins bon aussi en 2025 parce que tout ce qui s'en vient ici en géopolitique est super important. Puis on va devoir être fort au municipal, au provincial, au fédéral, à l'international. Et courte pause, on revient dans un instant avec Mathias, notre collègue, pour un bulletin de nouvelles complet. Et Dieu sait qu'il y en a de la nouvelle dans les prochains instants. Corias avec Lendemain à Boulevard 102.1. Merci d'être dans leur CV. Pas grand-chose que j'aime plus que d'aller lire vos commentaires et d'avoir une conversation après une entrevue ou après une prise de parole. C'était vraiment le fun de vous lire au 88-971-1021. Sur Twitch aussi, je sais que vous êtes là. Puis on en reparlera de tout ça parce qu'il va y avoir un automne assez mémorable en politique. On va essayer d'aller dans des angles un peu différents. Il y a un angle un peu différent, ça s'appelle la commission Galant, qui attire beaucoup l'attention. Puis j'ai l'impression que même si on a eu des témoignages vedettes, là, je vais le dire comme ça, du Bonnardel, François Bonnardel, Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault, qui ont passé dans les derniers jours, celui d'Éric Kerr est, je pense, le plus écouté, le plus suivi, le plus rapporté jusqu'à maintenant. Et pourtant, c'était pas le témoignage qu'on croyait avoir au niveau de la commission Galant. On se demandait même s'il allait témoigner. On a appris dans les dernières heures que François Legault allait témoigner la semaine prochaine. Ça a été dit hier. C'est pour ça, dans mon timeline, j'étais mêlée. Hier, en fin de journée, on apprenait que François Legault témoignera la semaine prochaine. Énorme témoignage attendu. Je croise les doigts pour que ce soit quelque chose qui soit concluant et qu'on en apprenne beaucoup plus. Par contre, j'ai pas beaucoup d'espoir, puis ça, ça m'énerve de pas en avoir. Mais entre-temps, on continue avec les témoignages d'Éric Kerr. Il y a des faits saillants qui ont été amenés hier à la commission Galant dans tout ce qui est fiasco SAAQ Click. Et notre collègue Mathias suit ça avec attention.
Oui, pour l'instant, ce qu'on retient du témoignage d'hier d'Éric Kerr, c'est que lorsqu'il est rentré comme ministre en 2018, le projet CASA n'était pas un projet considéré comme à risque. Il n'y avait pas eu d'informations comme quoi il y avait des problématiques au sein de ce dossier-là. Également, le commissaire Denis Galant qui a déclaré qu'Éric Kerr avait un peu l'air dans les vapes parce que son équipe aurait pu stopper l'hémorragie de sa clique dès 2020 alors qu'il avait été informé que
ça,
c'était...
Il a mis ça sur le dos d'Éric Kerr. C'est ce qu'on comprend.
Oui, vraiment. C'est le commissaire Galant qui l'a dit. Il a déclaré... Vous avez de l'air dans les vapes, vous auriez pu stopper cette hémorragie-là dès 2020. Là, on a eu très peu de témoignages hier. C'était en fin de journée là, qu'il est rentré. Le gros va se poursuivre vraiment aujourd'hui.
C'est là. C'est en direct. Regarde, là.
La gestion des budgets, il est en train de parler. D'administration, c'est sa responsabilité. Et ce conseil d'administration-là rend des comptes à son ministre de portefeuille. Donc, la reddition de comptes, la gestion du projet, elle est assurée. Là. C'est pas... C'est pas laissé sans surveillance. Là.
Est-ce que je dois comprendre que, comme ministre à la transformation numérique, ministre délégué à la transformation numérique, les coûts de projets d'envergure qui se produisent au gouvernement, vous, quand ça les coûts, c'est pas un élément que vous allez avoir sous votre radar, là. Vous laissez ça au ministre responsable de l'organisation
qui fait
la transformation numérique. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre de votre témoignage?
Bien, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est quand un projet est élaboré au bureau du DPI, on va faire l'évaluation du projet. Puis c'est un peu ce que je vous disais hier, monsieur le commissaire, là. Quand on arrive en réalisation, c'est là où on manque de moyens, effectivement, à ce moment-là. Et donc, quand on fait la recommandation favorable pour un projet, le projet est financé. Après ça, en réalisation, nous, ce qu'on a, c'est le CIGRI. C'est sûr que si on voit qu'un projet dépasse, ou s'il y a des... Parce que dans le CIGRI, vous avez l'échéancier, vous avez le coût. Donc, c'est sûr que ces deux indicateurs-là, on les suit. Mais assurément que la responsabilité de la gestion d'un projet... appartient à celui qui en est le maître d'ouvrage. Donc, si c'est le ministère...
Il est encore en train de témoigner. Les faits saillants d'hier, c'est qu'il y avait un bras de distance avec la SAAQ. Il y a rien à se reprocher. Le passeport vaccinal occupait son temps. Passeport vaccinal, rappelez-vous, c'était des codes QR à donner à tous et chacun, à ramasser ça pour être capable de prouver à l'aéroport, assis à ça, à bien des endroits qu'on pouvait... c'est étrange parce que ça paraît dans une autre décennie, dans une autre vie, mais qu'on pouvait circuler dans certains commerces et autres. Il témoigne autrement aujourd'hui.
Qui est M. Bonnardel, pour l'informer, dire, écoute, en passant, peux-tu jeter un œil sur ce projet-là? Parce que dépassement de coût d'échéancier, là, on voit ça venir, là, dans la mesure où je comprends de votre témoignage que vous, c'est pas à vous de vous occuper de cette portion-là. C'est une société d'État qui relève du ministre des Transports. Que ça ne vaudrait pas la peine de l'aviser pour que lui jette un coup d'œil sur cette problématique-là.
Écoutez, il va y avoir une rencontre justement de la société d'État avec le ministre concerné.
Initiée par lui,
effectivement.
Est-ce que vous, votre cabinet, avez tenté des démarches pour communiquer avec le cabinet du ministre des Transports pour justement l'en informer que si j'étais toi, je jetterais un coup d'œil là-dessus?
Moi, je comprends votre question, mais... Par rapport à... Puis je remets toujours le contexte, là. On n'est pas dans une situation où ce projet-là va mal. On n'est pas dans une situation où il y a des sonnettes d'alarme. Puis je comprends qu'on entend des passements de coups, puis tout de suite, on se dit « tabarouette ». Mais, monsieur le commissaire, des projets qui vont dépasser les coûts qui sont impartis, Il y en a beaucoup.
Mais ça, c'est un problème, non, M. Kerr, qu'il y en ait beaucoup. Tu sais, moi, j'écoute ça là, avec malheureusement beaucoup trop d'intérêt. Mais je m'attendais jusqu'à maintenant à un témoignage d'Éric Kerr qui soit un petit peu plus clair. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait vraiment soit de l'incompétence, un manque de suivi ou pas de temps dans son horaire pour le gérer comme il se doit. Puis on entend très bien les questions là, du côté de la commission Galant en ce moment en disant, ben vous aviez vu des dépassements de coûts. Pour vous, c'était pas assez de dire, ouais, même si c'est pas mon travail d'aller gérer ce dépassement de coûts-là, je pourrais peut-être allumer une lumière puis dire, ouais, là, on est dans de grands... Non, ce qu'il dit, c'est que ça arrive souvent. Mais ça, c'est un problème crucial au gouvernement que ça arrive souvent. Quand on n'est pas capable d'évaluer le coût d'un projet puis que c'est des dépassements de coûts qui valent des milliers, des millions, des fois des milliards de dollars, c'est un problème. C'est pas normal que initialement tu penses que ça va te coûter tant. Quelques mois, voire années, voire semaines, parfois, semaines, on peut rapidement aller s'ajuster, mais quand même, voir que ça va exploser en termes de coûts, ça veut dire qu'à la base, il y avait un problème dans la gestion. On n'avait pas les bonnes personnes à la bonne place, on n'avait pas les bons évaluateurs, ou encore, on n'avait pas les bons appels d'offres, ou le bon montant officiellement mis dans les bases du projet. Quelqu'un qui dit « je ne peux pas croire qu'on va devoir se taper cette commission-là pour aucun résultat », quel abrutissement politique. Et malheureusement, c'est un peu ça. La différence entre la commission Charbonneau, qui était en corruption et tout ça, qui était vraiment le point crucial, en ce moment, c'est les compétences. Si jamais on se rend compte qu'on mêle les deux, c'est assez médiocre.
Ah oui, puis je veux dire, là, le ministre Éric Kerr qui disait « oh, j'ai pas nécessairement alerté ». En gros, c'est parce qu'en 2021, il avait écrit dans un courriel que la SAAC était en dépassement de coûts puis d'échéancier depuis longtemps dans ce dossier-là. Il a juste appris...
Là, en 2021.
En 2021. Il a juste appris des dépassements de coûts en 2022. C'était quoi le montant? Pis... Ça veut dire que lui, ministre de la cybersécurité, que de base, ce ministère-là a été créé pour gérer des transitions numériques.
Et qui a été demandé par Éric Kerr des années avant qu'il soit au sein du ministère de la cybersécurité,
a été informé en 2021 qu'il y avait des dépassements de coûts, puis lui, il s'est pas dit « on va aller voir c'est quoi l'ampleur de ces dépassements de coûts, il a dit « c'est beau, c'est pas grave ».
J'ai bien compris, je crois, aussi, que dans son témoignage, il a dit « on n'a pas eu de comité ou de présentation du dit projet avant 2022 ». Donc, il a su qu'il y avait des dépassements de coûts en 2021, de ce qu'on comprend, mais il n'y a pas eu aucune présentation X, Y, Z jusqu'en 2022, même pas de ce qu'on peut saisir, puis là, on se trompe peut-être, un genre de « hey, time out, on va s'asseoir ensemble, on va voir où on en est, même si vous n'êtes pas capable de me présenter tout ce qui s'en vient, on va essayer de rectifier les choses puis de reprendre un peu le contrôle sur le cheval. »
Oui, puis je pense que là, il a dit en 2018, quand je suis devenu ministre, il n'y avait rien qui indiquait dans ce projet-là que c'était problématique. Quand tu deviens ministre de la cybersécurité, c'est le plus gros projet de transformation numérique. Pour moi, c'est ton mandat de dire « regarde, tout ce qu'on a sur ce dossier-là, je le veux sur ma table, puis déplucher le dossier. »
Ouais.
C'est ta responsabilité.
Dans les dernières minutes, François Legault s'est un petit peu laissé aller avec un commentaire sur le fiasco de la SAQ Click. Il avait dit hier qu'il n'allait pas se prononcer d'ici la semaine prochaine sur ce qu'il entendait. Et là, Legault a dit « je n'aime pas ce que j'entends ».
Ah oui.
Il a laissé planer le suspense sur sa date de son remaniement ministériel. C'est peut-être pas le temps en ce moment. Mais il dit qu'il est embarrassé par tout ce qui émane de la commission Galant sur le fiasco de la SAQ Click. François Legault, c'est une de ses premières, en fait, prise de parole depuis que ça a commencé. Il a été interrogé par les journalistes aujourd'hui à l'arrivée du Conseil des ministres, à savoir si sa convocation devant la commission Galant, qui est prévue mardi prochain, allait bousculer ses plans, entre autres du remaniement. Alors ça, c'est un petit peu non répondu, mais il dit qu'il va dire la vérité et il va se présenter, mais qu'il n'aime pas ce qu'il entend en ce moment. Je ne sais pas s'il faisait référence à ce qu'il entendait de la part de M. Kerr, qui a été tassé de son poste. Parce que ça, là, stratégiquement, là, politiquement parlant, c'est super bien exécuté. Du genre, j'aime pas ce que le témoignage d'Éric Kerr fait ressortir. ce n'était pas la bonne personne, nous l'avons tassé pour ces raisons. Voyez-vous un peu là où ça mènerait? Ouais, à pas grand-chose du genre, on a déjà réagi, on a déjà fait la bonne chose. Si je lis entre les lignes, ça se peut que ce soit la stratégie actuelle.
Oui, puis ben, il ira dire ça à la population, il ira convaincre la population qu'il aimait bien ce qu'il entendait de François Bonnardet puis Geneviève Guilbeault la semaine passée, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la population qui aimait ce qu'il entendait de Geneviève Guilbeault puis François Bonnardet.
Le courriel, le fameux courriel de Mme Guilbeault qui a été ramené là, à la commission Galant, comme quoi elle avait indiqué à François Legault qu'elle semblait voir de l'incompétence, puis finalement ça lui tombait entre les mains, puis elle avait le merdier entre ses mains, puis il fallait faire quelque chose, puis il fallait bouger. Il y a plusieurs personnes qui voyaient juste le fait que, bon, Mme Guilbeault essaie de sauver son travail. Moi, en arrière de ça, je vois le point crucial de la commission Galant, ou un des points cruciaux.
Ben oui, c'était trois lignes dans lesquelles on disait tout est beau dans ce dossier-là, quand on savait très bien qu'il y avait des problématiques.
Ah, la réponse à M. Legault, tu veux dire? Parce que le courriel de Mme Guilbeault, c'était plutôt « il y a de la compétence,
ah oui, dans
ça va pas bon train, c'est un merdier ».
Je me suis mêlé de courriel que François Bonnardet avait laissé à Geneviève Guilbeault lors de la transition aussi, ça c'était quelque chose. Puis justement, Geneviève Guilbeault qui a commenté aussi là, la commission Galant en disant qu'elle n'a dit que la vérité, puis qu'elle a dit « je vais être clair, jamais au grand jamais je mentirai aux Québécois ».
Mais non, elle ne se souvient pas. C'est facile de dire qu'on ne ment pas si on dit qu'on ne se souvient pas. C'est super problématique.
Oui, exactement. Hey, on va passer un peu en politique municipale parce que ça a brassé beaucoup hier, puis ça continue de brasser. Puis aujourd'hui, Sam Ahmad annonce une nouvelle candidature et Boulevard 102.1 a eu l'annonce en primeur. C'est Jean Gagnon qui sera le président, donc le candidat, donc l'ex-président du syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec, Jean Gagnon, qui fera équipe avec Sam Ahmad. Donc, c'est les informations qu'on a eues ce matin dans Boulevard Against le matin. Également, autre information qu'on a eue ce matin de la part de Stéphane Lachance et de Sam Ahmad, un après l'autre. Il semblerait que Claude Villeneuve prévoit faire un référendum sur le tramway si jamais il est élu. On va l'avoir en entrevue demain. On lui posera la question. Mais...
Peux-tu faire quelque chose pour moi d'un matin, Mathias? Parle à tes collègues, le Max Larouche puis Jeff Fortin. Claude Villeneuve, moi, personnellement, je trouve que c'est un homme super gentil. C'est une personne très, très présente pour son monde et tout. Mais son parti actuellement va un peu nulle part parce qu'il n'est pas assez populaire. Là. Le parti n'est pas assez populaire. La réelle joute, ce sera entre Sam Ahmad et Bruno Marchand. Et ça va diluer le vote. Il va y avoir vraiment une dilution des votes. Excusez, parce que j'ai encore le... j'ai encore Éric Clair dans une de mes oreilles. Je vais essayer de jouer avec mon curseur sur mon grand piano devant moi. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire, j'en m'en allais à Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, là, en ce moment, il réussira pas à aller chercher énormément de votes. Puis la problématique, c'est que ça va se passer comme au fédéral, ça va se passer comme au provincial. On sera pas capable d'avoir un vote clair. Et ça se peut que ce soit pas représentatif de ce que les citoyens souhaitent pour la mairie de Québec aux prochaines élections. Que ce soit Bruno Marchand ou que ce soit Sam Ahmad, je ne sais pas si à un moment ou à un autre, il voudrait lui s'annexer à un autre parti.
Ben justement, Claude Villeneuve a rencontré Sam Ahmad cet été, le 22 juillet dernier. Selon les dires de Claude Villeneuve, c'est Sam Ahmad qui a convoqué Claude Villeneuve pour une rencontre. Les deux se sont rencontrés pour justement, parce que Sam Ahmad voulait avoir Claude Villeneuve et Véronique Dallaire, une autre conseillère de Québec d'abord, au sein de son parti. On a parlé à M. Ahmad ce matin, il a avoué que oui, il avait discuté avec, finalement ça n'avait rien donné. Claude Villeneuve hier qui disait que, parce que présentement dans son district à lui, Mézeray, Lairet, il y a déjà un candidat du côté de Sam Ahmad. Claude Villeneuve a dit « Sam Ahmad m'a proposé de tasser ce candidat-là pour que je rentre à sa place ». Sa maman a dit « c'est pas vrai ça ce matin ».
Ah, ça, c'est des jeux de coulisses.
C'est ça, exact.
Mais demain, si vous voulez lui poser la question, savoir s'il peut aller s'annexer avec un autre parti, ça pourrait être intéressant de voir sa réponse.
Jackie Smith, chef de Transition Québec, a été expulsé.
Ça a brassé à l'Hôtel de Ville.
Ça a brassé à l'Hôtel de Ville, conseil municipal, mardi soir, hier, 19h, elle a été expulsée après un échange quand même assez houleux avec une conseillère de l'équipe du maire Marchand. À plusieurs reprises, la présidente du conseil municipal, Bianca Dussault, lui a demandé de se rasseoir. Madame Smith s'assoyait pas. Elle lui a donc demandé de sortir.
Elle a commencé à s'imposer. On écoute l'expulsion de Jackie Smith au conseil de ville qui était en plein coltaillage avec... certaines personnes qui ne faisaient pas son affaire clairement hier.
Je veux juste souligner le fait que je comprends qu'il y a une certaine tactique de débat ou d'essayer de détruire votre adversaire dans le débat. Madame Colombe-Leduc, en tant qu'ancienne lobbyiste pour un projet gazoduc.
Madame Smith.
Madame la présidente. Madame la présidente. Oui, question de privilège.
Assisez-vous, Madame Colombe-Leduc, à une question de privilège. Quelle est votre question de privilège, Madame Colombe-Leduc?
Ben, franchement, Madame la présidente. Madame Smith, je veux qu'elle retire immédiatement les propos qu'elle vient de tenir, qui n'ont rien à voir avec mon rôle de conseillère municipale. Si elle veut que j'aille gratter dans son passé, je vais le faire.
Je serais du côté de Mme Colombe-Leduc parce que je trouve que l'attaque est assez personnelle. Puis ça porte atteinte.
Mais moi, j'ai une question de privilège.
Mais est-ce que vous retirez vos paroles?
Madame, juste pour rectification des faits. Madame Colombe-Leduc m'accuse de manquer de rigueur. Moi, je dis qu'elle est lobbyiste.
Point d'ordre, Madame la présidente.
J'ai chargé le registre des
lobbyistes. Point d'ordre,
Madame Smith, s'il vous plaît. Assisez-vous, s'il vous plaît. Madame Smith.
Commencez à comprendre ce qui s'est passé. Et après, la vice-présidente du conseil, Bianca Dussault, dont tu parlais, était un peu au bout de ses nerfs après l'expulsion de Jackie Smith.
Ah oui,
parce que c'est vraiment valu la peine de faire un avertissement avant la séance, à 14 h, à 17 h. Sincèrement, là, je sais qu'on est à l'aube d'une campagne électorale, là, mais il y a encore deux autres conseils à passer. C'est pas fini, hein?
Plus ça va, plus c'est pareil. Dans mon jeune temps, j'allais couvrir souvent les conseils municipaux. Puis, dans le temps de Régis Labeaume, c'était la même chose. Ça se coltaillait, ça chicanait. Si l'émission Virginie vous manque, là, allez vous asseoir au conseil de ville une fois de temps en temps. Puis, surtout pendant les périodes de questions, vous allez avoir du fun. En terminant, Mathias.
Oui, en terminant, je vais finir avec Jackie Smith. Sur moi, elle voulait faire un show. Et d'ailleurs, sur nos ondes ce matin, encore une fois, je sais pas si tu te rappelles sa taxe de 1160 $ au véhicule qu'elle avait annoncé l'an dernier. Eh bien, ce matin, elle a dit que ça, c'était qu'un stunt politique. Elle a dit que c'était un stunt politique, c'était pour avoir l'attention des médias. Ouf. On lui a demandé, dans ce cas-là, c'est quoi le vrai chiffre. Elle a dit, on ne sait pas pour l'instant, on vous revient avec ça. Donc, de la part d'un parti sérieux, d'un parti qui aspire à la mairie, je mets quelques guillemets, là, parce qu'on s'entend, elle est très bas dans les sondages, ça fait un peu manque de sérieux d'avoir fait un stunt politique de la sorte.
Peut-être que c'est une déclaration qu'elle aurait pu faire en point de presse, mais officiellement, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup d'attention. Par contre, c'est aussi vrai qu'elle est très basse, comme tu disais, dans les intentions politiques. Ça va souvent de soi. Soit il faut faire parler de soi politiquement parlant avec justement un stunt qui est un peu mal vu en société, ou encore avoir des éléments concrets et intéressants pour la ville, puis réussir à prendre le devant dans une campagne municipale. Et ça, c'est entre les mains de la personne bien souvent. Merci Mathias.
Ça fait plaisir.
On t'écoute demain dans Boulevard Against le matin. Il nous reste une petite semaine avec cette programmation-là. On va préparer tout le reste au courant de la journée de demain 28 août. C'est là où vous allez entendre la programmation officielle pour l'automne ici à Boulevard 102.1. Pour ceux qui étaient au Capitole hier, vous avez eu certaines bribes. On revient dans un instant dans leur CV. Passe une belle journée, Mathias.
Yes, toi aussi.
En ce moment,
je m'excuse là, Bernard Drainville est en point de presse en ce moment à Québec en direct devant l'Assemblée nationale. Il a l'air au bout de répondre aux questions sur l'éducation. Quelle rentrée chaude, mesdames et messieurs, et c'est pas en termes de température parce qu'aujourd'hui c'est 15, ça pourrait monter jusqu'à 20. On ressent un peu l'automne, il faut une veste là. Je ris, mais je ris de à quel point on va réussir à suivre tout ce qui concerne nos enjeux en ce moment provinciaux, au municipal puis au fédéral. On va avoir la broue dans le toupette à Boulevard 102.1, puis je vais vous dire, je dis ça en riant parce que c'est une des choses que j'aime le plus faire défricher pour vous, ce qui se passe. Mais d'abord et avant tout, là, avant de quitter, j'aimerais ça au 88-971-102.1 vous entendre. Parce que tout ça, là, c'est dans quoi on se baigne, dans notre genre de petite boîte de verre là, au quotidien, ça fait partie de notre job. Mais sur le terrain, c'est quoi votre enjeu? C'est quoi votre défi? De quoi vous aimeriez qu'on parle? 418-971-1021, entre l'heure CV et Marceau le midi, je vais vous lire, continuez d'écrire, ça me fait plaisir, puis je vais aller vous répondre aussi pour certains, c'est allé un peu vite, je vais aller finir de prendre tous les textos, et on se retrouve dans un instant avec Yannick Marceau pour Marceau le midi à Boulevard 102.1. Vous étiez peut-être au Capitole hier, je dis ça, je dis rien. Donc, sois avec nous cette semaine. Je dis ça, je dis rien. Salut tout le monde. À tout de suite.